qui explicite, quand on parle d'un enseignement, comment enseigner de manière plus explicite, on a évidemment en tête l'enseignant. Et donc, bien sûr que l'enseignant va expliciter un certain nombre de choses, et Patrick l'a suffisamment développé pour que je ne complète pas, ou peut-être tout à l'heure à propos de la consigne. Mais en même temps, dans les programmes, on voit apparaître que l'élève doit procéder à un apprentissage explicite. Autrement dit, dans cette explicitation, eh bien, il y a aussi l'élève. C'est-à-dire que, oui, on n'est pas... Et ça, c'est pour ça que j'avais réaffiché ça. Vous vous rappelez que, lors du premier regroupement, j'avais fait la distinction entre enseignement, enseigné de manière explicite, et enseignement explicite, tel qu'on le trouve aujourd'hui dans la littérature, ou quand vous tapez sur un moteur de recherche enseignement explicite, vous tombez tout de suite sur le collectif québécois Instruction directe. Et je vois qu'en France, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs assimilent enseignement explicite et instruction directe. Et vous vous rappelez que j'avais attiré votre attention sur l'idée que, eh bien non, dans notre perspective, et je parle du collectif ici, l'enseignement explicite chez nous n'est pas synonyme d'instruction directe, mais c'est bien un adjectif qui permet de qualifier, c'est pas une méthode qu'on doit à telle et telle hauteur, mais bien un adjectif qui nous permet de penser que c'est une préoccupation permanente de l'enseignant, et je redis aussi ce qu'a dit Patrick, à condition que lui-même soit conscient de tout l'implicite qui circule dans la classe, qui n'est pas évident. Donc une préoccupation permanente, surtout s'il travaille avec des élèves de milieu populaire. Donc je voulais faire ce rappel pour dire que oui, on peut, et attention, c'est une méthode parmi d'autres, et moi je suis prête à défendre que dans certains cas, il n'y a rien de mieux que l'instruction directe pour éviter que les élèves perdent un temps infini à trouver ce qu'il s'agissait de faire. Donc je suis prête à le défendre, y compris à l'école maternelle, sur certains temps, mais je ne suis pas prête à défendre que ce soit la seule manière d'enseigner explicitement. Donc là, c'était mon premier point. Donc qui ? L'enseignant. Et en même temps, avec cette question, mais si l'enseignant explicite tout, alors quel est le travail des élèves ? Comment concilier la mise en activité des élèves ? Comment concilier le fait qu'on va solliciter leur activité intellectuelle si on leur a déjà mâché tout le travail ? Et donc là, je voudrais revenir sur cette question de consigne. Il ne suffit pas d'expliciter la consigne pour que tous les élèves rentrent dans le travail. Alors, en même temps, on pourrait se dire, mais à quoi ça ressemblerait une consigne explicitée de telle sorte que tous les élèves comprennent ce qu'il y a à faire? Et là, je vais proposer quelques idées concrètes. La première idée, c'est quand vous circulez dans les classes, vous voyez comment les enseignants s'y prennent. Ils font lire la consigne, décoder la consigne, et ils demandent à un élève de la reformuler dans ses propres mots. C'est à peu près classique. Donc, ça donne ça, par exemple, dans la classe où j'étais là quelques jours. L'élève lit « Entoure les idées essentielles ». Alors, qu'est-ce qu'il reformule ? Il faut entourer les idées essentielles. Ok, ben allez-y. Et donc, je m'approche d'une élève et je lui dis « Qu'est-ce que c'est, idées essentielles ?» Voilà. Donc, on est d'accord que là, la reformulation est très lacunaire, mais y compris sur. Il faut, quelqu'un, un élève reformule, c'est « Il faut surligner les idées importantes, les informations importantes. » Et là, on dit « C'est bon, c'est bien reformulé. » À condition que les élèves comprennent ce que c'est qu'une idée importante. Et quand on regarde travailler les élèves, on voit qu'un certain nombre prend son surligneur et souligne une phrase sur quatre. Et avec ça, normalement, c'est à peu près bien. Donc, encore une fois, même la reformulation ne va pas suffire. Et il me semble qu'on pourrait compléter en disant « Mais qu'est-ce qu'il faut réussir ?» C'est à quoi ça ressemblera, ce travail, quand vous l'aurez réussi. Autrement dit, pas seulement la consigne, c'est pas seulement la consigne qu'on reformule, mais c'est aussi le résultat. Et en gros, c'est qu'est-ce que la maîtresse ou le maître a dans la tête et quels sont ses critères, quelle est sa règle du jeu et quels sont les critères qui vont lui permettre de dire c'est bien, c'est mal. Et ça, faire rentrer les élèves dans la tête de la maîtresse, ça permet de beaucoup mieux comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle veut que vous fassiez, quelles sont ces bonnes raisons de faire ce que vous avez à faire, et en même temps, leur faire expliciter, encore une fois, l'attendu. À quoi va ressembler le résultat quand ça sera réussi? Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a rarement d'explicitation sur ce à quoi il faut faire attention. Ce à quoi il faut faire attention, comment faire pour réussir. Et donc, si autour des notions. Il me semble que l'explicitation, elle est extrêmement bien menée à l'école sur toute la question des procédures, comment on fait pour faire. Là-dessus, il me semble qu'il y a encore beaucoup de travail d'explicitation à faire. Autrement dit, on les laisse tâtonner, explorer, découvrir les meilleures manières de faire sans parfois leur expliquer comment on fait pour bien faire. Et là, je vais prendre un seul exemple et après j'arrête. Je vais prendre, pas celui-là, l'exemple de la copie. Et je reviendrai sur les questions de lecture après. On avait demandé à des élèves de SECPA de copier ce qui était au tableau, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, donc élève de 6e SECPA. Et on ne leur laissait pas le modèle au tableau, mais on leur disait, eh bien, tu commences. Et quand ils commençaient, alors, on éteignait l'écran. Et quand ils demandaient le modèle, on leur remontrait. Moyenne de la prise d'information chez les élèves de SECPA, qui, je dois le dire, à l'issue du travail, font une copie absolument magnifique. C'est-à-dire qu'ils copient extrêmement beau. Moyenne des prises d'information, 13. Donc, ce n'est même pas du syllabique, c'est du lettre à lettre. Et si vous regardez les pratiques des élèves de CM2, vous verrez que bon nombre d'élèves continuent au CM2 à ne pas copier des blocs de sens, mais à copier des blocs de lettres, dans le meilleur des cas. Et maintenant, allons observer les pratiques. Donc, je vais m'appuyer sur la recherche « Lire, écrire » dont vous avez sûrement entendu parler, 131 classes de cours préparatoires, les résultats viennent d'être publics, et je vais reprendre la présentation de Catherine Brissot et de Martine Dreyfus autour de l'activité de copie au cours préparatoire. Combien de temps ? Alors, on a classé les tâches d'écriture au cours préparatoire en 9 catégories, calligraphie, copie, bref. Et je vais m'attacher aux deux sous-catégories que sont copier avec le modèle sous les yeux, copier des lettres, copier des syllabes, copier des mots, copier des phrases, copier des textes, vous voyez les lettres, et ou bien copier après disparition du modèle, copier des lettres, copier des mots, copier. Ça va ? Et regardons à quoi les maîtres de CP passent leur temps. Donc ça, c'est une moyenne sur l'année. Eh bien, vous voyez qu'ils passent 11% de leur temps à la calligraphie, 47% de leur temps à la copie, dictée 22 minutes en moyenne. À part ça, c'est 7h30 en moyenne par semaine, le lire-écrire, j'ai oublié de dire ça. Donc, vous voyez que la copie occupe sur les 7 heures une grande partie du temps, la production décrit 42 minutes. Et maintenant, allons voir. Là, on a la différence entre copie avec le modèle sous le nez et copie sans le modèle sous le nez. Et on a classé là les enseignants par décile, et donc vous voyez que dans notre échantillon de 131 enseignants, eh bien, on a une bonne partie d'enseignants qui ne fait jamais copier après disparition du modèle, et d'autres enseignants qui font un peu plus souvent, mais très peu, copier sans modèle. Pourquoi je dis ça ? C'est que quand on regarde ensuite les effets de la copie sur les performances des élèves en copie à la fin de l'année, eh bien, on voit un effet négatif sur les élèves les plus faibles. Autrement dit, les élèves ont beaucoup copié, mais très rares sont les enseignants qui leur enseignent les stratégies de copie efficaces. Et vous voyez que la copie sans le modèle, la copie avec un modèle qui est caché, c'est une occasion merveilleuse pour enseigner toutes les procédures utiles pour copier efficacement. Est-ce que c'est clair, ça, ou pas ? Par exemple, on va copier le petit chaperon rouge. Alors, on le connaît. Chaperon, à quoi faut-il être attentif ? À rien, en gros, puisque ça sonne, ça s'écrit comme ça se prononce. Rouge, à quoi doit-on faire attention ? Au G, c'est bon, tout le monde l'a, on s'en souvient, le petit chaperon rouge. Hop là, petit, à quoi doit-on faire attention ? La lettre muette, nanana, tout le monde voit. Allez, je vais fermer le tableau. Rappelez-vous, on a deux choses à se rappeler. Le T de petit et le G, ça va ? Et donc, on va copier non plus des blocs de lettres, mais puisqu'on n'a plus le modèle sous les yeux, des blocs de sens. Et vous voyez que c'est des modifications très minimes des pratiques d'enseignement, mais qui vont générer des transformations assez radicales chez les élèves, parce qu'on aura enseigné ça de manière explicite. Donc oui, évidemment, il ne suffit pas d'expliciter la consigne, mais si on explicite la consigne et en même temps les procédures efficaces pour traiter la consigne, alors là, on voit que les choses changent beaucoup sur les capacités des élèves à entrer dans l'activité. Et en plus, comme on a montré le résultat final qui est, ben voilà à quoi ça devra ressembler ta production quand tu auras fait ce que je t'ai demandé de faire, ça sera le petit chaperon rouge avec le T, avec le G, et bien là, on met les élèves avec un but très clair de « je connais le but », je connais la manière de m'y prendre et je connais le résultat attendu. Et là, je me souviens de, j'allais dire mon idole, mais oui, je vais oser, Hébrard, inspecteur général, qui disait « Les enseignants ont une difficulté, c'est de faire travailler les élèves en petits groupes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment occuper les élèves. Et ils s'étaient interrogés sur comment mettre au travail des élèves sans qu'ils aient besoin de l'enseignant. Autrement dit, ils se posaient la question de savoir comment les élèves peuvent-ils réaliser des tâches tout seuls ? Eh bien, la réponse qu'ils donnaient, c'est exactement la même que je donne aujourd'hui. C'est-à-dire, quand les tâches sont totalement transparentes, explicites, que les élèves connaissent le but, qu'ils connaissent la règle du jeu et qu'ils connaissent le but à atteindre, alors ils ne dérangent plus l'enseignant. Et là, il me semble qu'on a quelque chose qui devrait permettre à la fois de différencier, hein, avec cette explicitation-là, quand tout est connu des élèves, alors c'est bien plus facile de les rendre autonomes dans la réalisation des tâches. Donc, qui ? J'ai parlé du maître. Et je reviendrai, quand on m'interrogera tout à l'heure, sur à quel moment ce sont les élèves eux-mêmes qui ont besoin d'expliciter, parce que l'explicitation rend nécessaire la compréhension. Mais je le dirai tout à l'heure. Et vraiment, très vite, c'est cette idée, et on le trouve beaucoup, cette idée, on la trouve beaucoup dans les programmes du cycle 1 au cycle 4, que les élèves doivent apprendre explicitement et s'expliquer. Et expliquer. Alors, s'expliquer à eux-mêmes et expliquer à l'enseignant. Et dans le programme de cycle 4, on le trouve massivement dans toutes les disciplines. L'élève doit savoir expliquer. Et je parle sous le contrôle d'Elisabeth Bautier, que je salue. Pour expliquer, eh bien, on va avoir besoin de compétences langagières qui, selon moi, méritent d'être vraiment enseignées. Pour expliquer aux autres comment je m'y prends, pour expliquer aux autres comment j'ai trouvé la bonne réponse, il va falloir centrer l'attention des élèves à la fois sur le mode de fonctionnement qu'ils ont mis en œuvre, mais aussi sur la manière dont on explique. Et vous savez, et ceux qui travaillent avec les élèves de maternelle et de primaire le savent, combien les élèves répondent le plus souvent « je ne sais pas ». J'ai fait. J'ai réfléchi dans ma tête, dans le meilleur des cas. J'ai essayé, ça a marché. Mais si on ne centre pas au départ leur attention sur l'idée que tout à l'heure, je vais te demander comment tu as fait, il y a rarement des élèves qui font en même temps quelque chose et qui en même temps s'interroge sur la manière dont ils l'ont faite. Et c'est pour ça que pour moi, cette histoire d'explicitation, on a tendance à la penser toujours en amont. On va expliciter la consigne et ce qu'il y a à faire. On la pense beaucoup en aval. On va expliciter ce qu'on a appris, ce qu'on a fait, etc. Et très rarement pendant. Et c'est pourtant, à mon avis, là que l'explicitation est la plus utile. Alors je vais donner juste un exemple que je prends en maternelle sur la place de l'explicitation dans les pratiques des enseignants. Et je vais prendre une activité de petite section. Il se trouve qu'on est dans une situation qu'on appelle aujourd'hui les ateliers de manipulation autonome. Les élèves sont tout seuls avec un petit exercice, un petit travail, un petit truc. Et ils doivent travailler tout seuls pendant 15 minutes dans le silence. J'insiste. Chacun a un matériel. Voici celui qu'a c'est la petite fille dont je vais parler. Elle doit trier de multiples objets en deux catégories. Alors hier, Evelyne nous a dit combien ces activités de tri étaient importantes dans le développement de l'enfant. Donc deux catégories. Les objets attirés par un aimant vont dans la boîte de droite. Les autres restent dans la boîte. Voici le matériel. On le voit mieux ici. Donc quand c'est attiré par l'aimant, on le met dans la boîte du haut. Quand c'est pas attiré dans la boîte, on le met dans la boîte du bas. Pourquoi tant d'objets ? Parce que ça dure un quart d'heure. Voilà. Donc il faut que les élèves aient du grain à moudre, donc il faut qu'ils fassent le travail. Et puis à la fin, la maîtresse mène un bilan en collectif et elle a lu Mireille Brigodiot. Et voilà ce qu'elle fait. Elle adopte la méthode préconisée par Brigodiot qui s'appelle VIP, j'y vais. La maîtresse valide. Mar a bien appliqué la règle de tri. Elle a mis dans la boîte aimant les objets attirés par l'aimant et elle a laissé dans la grande boîte ceux qui ne sont pas attirés par l'aimant. Elle a réussi à bien trier plusieurs objets, dit-elle. Donc elle valide le travail et elle interprète. Et elle interprète avec une centration sur la procédure de tri. Elle a placé l'aimant sur l'objet. Quand il était attiré, elle le rangeait dans la boîte. Quand il n'était pas attiré, elle le laissait dans la boîte. Elle ne s'est pas trompée. Mais elle pose un écart, mais je vois que Mar n'a pas mis tous les objets attirés par l'aimant dans la boîte, elle en a oublié. Et elle donne un conseil, la prochaine fois, il faudra que tu vérifies ton travail, que tu regardes si tu as bien rangé dans la boîte tous les objets attirés, sans en oublier. Et vous voyez que cette aide-là, elle est totalement impensable. Avec la quantité d'objets qui restent dans la boîte, il est impossible que la petite fille vérifie. Et donc, je fais une proposition alternative qui est bon, voilà, sur quoi de travail, un coût cognitif trop élevé et surtout pas de progrès cognitif sur la procédure efficace. La proposition alternative, c'est évidemment diminuer la quantité des objets à trier et donc mettre un matériel plus simple, mais surtout venir à côté d'eux et leur expliquer quelle est cette procédure d'exploration systématique qui permet de ne pas en oublier. Procédure systématique qui diminue la quantité de ressources attentionnelles allouées à la tâche et qui rend toute vérification inutile. Donc comment tu vas t'y prendre? Eh bien, je vais les ranger, je vais les organiser. Claire Malgonidas dirait, je vais les énumérer. Et du coup, on peut évaluer tout seul son travail parce que vu la procédure qu'on a utilisée, on n'a plus besoin de vérifier parce que cette stratégie systématique nous permet de savoir qu'on n'en a pas oublié. Et du coup, elle est transférable dans tout un tas de tâches de tri. Et pas seulement sur les aimants, c'est avant de travailler, j'organise un peu mon matériel et puis je fais une exploration systématique gauche-droite et du coup, je vais pouvoir l'employer dans tout un tas de situations différentes. Et donc, vous voyez qu'ici, l'explicitation, elle est en ligne à partir d'une activité et pas seulement après coup quand l'enfant s'est trompé ou quand l'enfant n'a pas réussi, puisqu'en fait, l'échec ne permet pas là de revenir sur la procédure, encore une fois, parce qu'elle est totalement inconsciente chez la petite fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé. Ça a marché, elle a poussé. Donc, pour moi, là encore, il est important que l'enseignant explicite, mais il est aussi important que les élèves soient conscients que l'explicitation des procédures rend leur activité bien plus importante, bien plus efficace et du coup transférable.